Religion du monde. Geneviève Delrue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette première rediffusion de l'été, nous allons retrouver l'islamologue et philologue israélien Meir Baracher et son livre « Les Juifs dans le Coran » publié chez Albin Michel. Et nous entendrons ensuite l'historien américain John Tolan qui a publié chez le même éditeur un livre sur les représentations du prophète Mahomet en Occident et cela du Moyen-Âge à nos jours. Que dit le Coran sur les Juifs ? Le sujet, aussi épineux que complexe, est au cœur des relations entre Juifs et musulmans. Meir Baracher est un chercheur et universitaire israélien. Il dirige le département des langues et de littérature arabe à l'Université hébraïque de Jérusalem. Son livre souligne l'ambivalence du Coran à l'égard des Juifs avec tantôt des versets positifs et tantôt des versets négatifs. En tout cas, c'est un regard dépassionné et objectif qu'il veut apporter. Meir Baracher ouvre son essai sur la présence très ancienne des Juifs dans la péninsule arabique, et cela des siècles avant l'arrivée de l'islam. Et il explique texte à l'appui comment les points de contact entre les fils d'Israël, non donnés alors aux Juifs, et les fidèles de l'islam naissant, sont à l'origine de l'influence juive dans les textes et la tradition islamique.
Quand Muhammad apparaît avec sa nouvelle religion, ça commence pas de nul, ça commence d'une existence. Et quand il arrive à un endroit où il est entouré par des monothéistes, des juifs et des chrétiens dans ces régions, et même déjà à la Mecque, même avant l'émigration, l'émigration de Muhammad avec ses adeptes à Médine en 622, déjà au commencement de sa mission prophétique qui commence à 610, jusqu'à 622, et lorsqu'il se trouvait encore dans sa ville natale de la Mecque, il rencontrait des juifs venant à la Mecque pour faire de commerce. Et sans ces rencontres avec les juifs, on ne peut pas comprendre les composantes très marquantes et juives qu'on trouve dans le Coran.
Vous soulignez d'ailleurs, Meir Baracher, qu'il y a une maison d'études dans laquelle un des conseillers du prophète Mahomet a étudié, une maison d'études juive.
Oui, tout à fait. Dans les sources arabes, on nous parle de ce qu'il disait, ce qu'il appelle en arabe Bayt al-Midrash, c'est une maison qui est tout à fait l'équivalent de ce qu'on dit en hébreu Bet al-Midrash, qui sera une école d'études juives, un peu comme nous avons dans les diasporas plus tard ce qu'on appelle yeshiva, c'est-à-dire une école pour les études de la Bible, de Talmud, etc. Donc ça existait. Et dans ce terme-là, ça apparaît dans les sources arabes. Et puis, les musulmans avaient des rapports avec des juifs venant de ce Beit HaMidrash. Et même parmi ces musulmans, la nouvelle génération de musulmans contenait aussi des juifs convertis à l'islam et qui étaient, si vous voulez, les premiers enseignants de Mohammed de l'héritage juif. Et ces juifs convertis à l'islam, dans la première génération, c'est eux qui ont été les responsables d'une littérature immense que la littérature arabe islamique appelle Israïliyat. Israïliyat, vous reconnaissez tout de suite que ça vient du mot Israël, c'est-à-dire des traditions, des dires, des développements midrashiques qui ont été transmises par ces juifs vers l'islam. Ils étaient traduits de l'hébreu ou l'araméen vers l'arabe, en arabe, et c'est devenu un fondement substantiel, important, très important, pour la création de cette nouvelle religion. Donc on trouve énormément des éléments juifs, et dans le Coran, et dans la littérature post-coranique, qui sont, aucun doute, les résultats de ce contact que Muhammad avait avec les juifs. Il ne faut pas oublier que l'islam, il est en train, dans cette étape-là, de construire ses fondements. Donc il a besoin d'être nourri par ses deux sœurs, si vous voulez, le judaïsme, le christianisme. Donc on voit, dans les Israélites, on voit non seulement des dires qui viennent de Talmud, mais aussi quelques dires de Jésus dans les évangiles qui sont traduits en arabe, qui sont sous forme d'israéliat.
Vous voulez dire aussi que ce qu'on appelle les hadiths, c'est-à-dire les faits et gestes du prophète qui sont transmis, cette littérature s'inspire d'une tradition juive.
Oui, elle s'inspire énormément de judaïsme et de christianisme, mais aussi, évidemment, des traditions anti-islamiques païens qui vont être islamisées par le Mohammed et ses adeptes. Mais non, aucun doute, l'élément juif et l'élément chrétien joue un rôle très important.
Par exemple, oui.
Par exemple, quand le Coran nous raconte l'histoire de Caïn et Abel, qui ne sont pas mentionnés par nom dans le Coran n'a pas l'habitude de donner le nom des héros, il reste sans nom. Donc, il nous raconte l'histoire, et tout d'un coup, et après qu'un fils d'Adam tue l'autre fils, sans avoir des noms spécifiques, le Coran dit quelque chose de remarquable. Il dit, celui qui tue quelqu'un, c'est comme il a tué toute l'humanité. Et celui qui sauve quelqu'un, c'est comme il a sauvé toute l'humanité. Alors, quand vous allez lire l'histoire de Caïn et Abel dans la Bible, vous ne trouvez pas ce dire. Il y a l'histoire de haine qu'il y a entre eux, de la tension qu'il y a, et ça finit par l'assassinat d'Abel par son frère Caïn, sans donner un jugement moral, qu'est-ce que ça veut dire tuer quelqu'un ou sauver quelqu'un. Le Coran ajoute cette chose-là. Et quand on regarde de près de quelle source ça vient, on trouve immédiatement que dans les développements midrashiques de cette histoire, cette affirmation se trouve dans l'histoire de Caïn et Abel, et elle est développée par tous les commentateurs et juifs. Et si par exemple quelqu'un a l'habitude de lire la Torah avec le commentaire bien fameux et connu de Rashi, le commentaire français médiéval, il va trouver qu'il cite le Midrash avec cet ajout. Donc le Coran, lorsqu'il nous raconte une histoire et un récit soi-disant et biblique, il nous raconte toujours une histoire avec des éléments non bibliques et post-biblique, on peut donner aussi des exemples du christianisme. Le Coran, souvent, il nous re-raconte l'histoire. Il raconte de nouveau l'histoire biblique. Quand le Coran fait cette approche, il intègre dans le récit des éléments post-bibliques, mais de manière intelligente. C'est pas, souvent, on entend que le Coran copie les traditions qui se trouvent dans la Bible ou trouvent dans le Nouveau Testament. C'est pas le cas. On voit qu'il y a ici une science, une sagesse de choix. On examine les éléments venant de ces sources et on décide qu'est-ce qu'on adopte et qu'est-ce qu'on rejette. Et dans le livre, je donne plusieurs exemples. Quand j'analyse l'histoire de Joseph, de David, et de Salomon, de Caïn et Abel, et bien d'autres, je montre spécifiquement comment ce processus est fait, de manière très intelligente.
C'est ça sur le mode de la sélection, en quelque sorte?
Oui, par mode de sélection, tout à fait. On est tout à fait conscient de quels sont les éléments qu'on veut intégrer, quels sont les éléments qu'on n'a pas besoin pour un lecteur musulman, donc qui sont trop juifs ou trop chrétiens pour être intégrés, donc on les supprime. Mais ça ne se fait pas de manière automatique, ça fait très consciemment, avec beaucoup de prudence, beaucoup d'intelligence.
Une question sur la méthode, hein, sur la méthodologie que vous appliquez ou que les chercheurs appliquent. Quelle méthode employez-vous?
J'emploie les méthodes historico-philologiques, c'est-à-dire on essaye d'utiliser notre connaissance des langues et des sources anti-islamiques qu'on peut supposer qu'il était à la base du Coran. Mais on a le sens qu'il faut lire des textes et supplémentaires qui sont hors de la Bible, c'est-à-dire le Talmud, le Midrash et les pères des églises syriaques, parce qu'ils jouent un rôle très important, parce que les moyens syriaques sont arrivés, aucun doute, et en Arabie. Donc on voit quelques termes qui sont une réflexion des terminologies syriaques. Donc c'est comme ça que l'idée est venue d'aller vers ces textes, les lire par exemple quand on lit l'histoire de la sacrifice d'Isaac. Alors il y a des éléments qu'on trouve ni dans la Bible, ni dans le Talmud, mais on le trouve chez les pères syriaques. Donc quand on lit les écrits des pères syriaques, on arrive à trouver des éléments qui nous expliquent des détails dans les histoires qui ne sont pas trouvables ni dans la Bible, ni dans les écrits juifs. Donc maintenant nous savons que afin de bien comprendre l'arrière-plan du Coran, l'ambiance dans laquelle linguistique et culturelle dans laquelle il a été composé, il faut aller vers les sources juives et les sources chrétiennes, et tout particulièrement les sources chrétiennes d'origine de l'église syriaque, et ça nous permet de voir beaucoup plus que nous avons vu avant.
C'est une démarche scientifique. Est-ce qu'elle peut être totalement dénuée de préjugés? Est-ce qu'elle peut être abordée, c'est une question quand même, de façon complètement neutre?
Vous savez, on essaie toujours d'avoir, j'ai essayé dans ce livre d'être aussi objectif que possible, c'est-à-dire montrer les choses telles qu'elles sont avec toute leur complexité. Je n'ai pas essayé ni d'idéaliser, ni de décrire une situation qui est tout à fait noire et sombre, mais d'examiner les choses de manière objective. Mais je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas de chercheurs qui n'appartient pas à cette méthodologie, qui quelquefois il vient aux sources avec une agenda. Et puis il voit dans le texte, ça existe dans toute culture, dans tout le temps, qu'il y a des gens qui viennent et au texte, qui font une démarche vers le texte avec leurs préjugés. Et puis il essaye de démontrer eux-mêmes ce qu'ils ont déjà venu avec.
Oui, manifestement, vous, c'est vraiment vous avez voulu montrer avec beaucoup de, j'irais, de distance, hein, et de neutralité. Enfin, en tout cas, ça sent dans ce que vous écrivez, l'extrême complexité, en fait, de cette étude du Coran au regard des sources juives et chrétiennes.
J'ai essayé le maximum possible d'éviter aucune. D'abord, je n'ai pas une tendance d'un propagandiste, je n'ai pas une approche politique. J'aurais dit que j'ai beaucoup de sympathie vis-à-vis des textes religieux, que ce soit musulmans ou chrétiens. Je viens avec beaucoup d'intérêt intellectuel et spirituel de les déchiffrer, de les comprendre. J'essaie d'éviter un jugement. Et puis, le jugement que j'ai, je sais que ce soit un jugement scientifique, académique, de montrer les choses telles qu'elles apparaissent dans les textes et pas de les manipuler, de les utiliser pour des buts politiques. Mais je sais bien qu'il y a d'autres approches vis-à-vis de ces textes-là, et par les chercheurs et par les musulmans eux-mêmes.
C'était une petite clarification, effectivement, nécessaire pour montrer, Meir Baracher, l'état d'esprit, j'allais dire, de votre travail. Alors, on poursuit justement avec le Coran et les juifs dans le Coran. Alors, très important, la question de l'élection. D'ailleurs, vous accordez pas mal de pages. La question de l'élection, le peuple juif, peuple élu. Pour résumer, le Coran va laisser entendre que le peuple élu, il a beaucoup failli, donc il est plus vraiment élu, et que finalement, c'est plutôt le peuple musulman qui va devenir un peuple élu. Est-ce que j'ai résumé de façon extrêmement grossière, correspond à peu près à la réalité?
Oui, ça correspond, parce que vous savez, l'idée de l'élection qui se trouve dans la Bible, qui se trouve à l'Église, chez les chrétiens, qui se trouve dans le Coran, l'Église, mais dans toutes ces religions, l'élection va toujours elle est toujours conditionnée. C'est-à-dire, dans chaque religion, quand on est élu, on risque aussi de perdre l'élection. Alors, commençons par le judaïsme qui se considère comme peuple élu, c'est une idée qui est développée dans l'Ancien Testament, et vient le christianisme qui dit, voilà, vous avez perdu votre élection, et c'est nous, les chrétiens, qui sommes le vrai Israël, le verus Israël. Donc, ça, c'est une idée claire dans le christianisme. La même démarche est faite par l'islam. L'islam dit très explicitement dans le Coran, plus qu'une fois, cette idée que le peuple d'Israël, toujours le peuple d'Israël, il ne s'agit pas des juifs. On n'a pas traité la terminologie. Le Coran distingue entre juifs, Yahoud, et entre Banu Israël, le fils d'Israël. Quand il utilise le fils d'Israël, il s'agit des anciens et juifs de l'époque biblique. Quand il parle de Yahoud, donc il parle des juifs tardifs, de l'époque de Mohammed, et plus tard, ceux qui s'appellent Yahoud, et le terme Yahoud, il a toujours un sens péjoratif, tandis que le terme fils d'Israël, il a un double sens avec une tendance vers le positif. Donc, ceux qui ont été élus, c'est pas les Yahoud, les juifs, mais c'est les anciens de Banu Israël, les anciens et fils d'Israël. Mais le Coran dit, juste en parlant de l'élection, l'histoire de l'élection suivie par tous les péchés que les fils d'Israël ont commis pendant l'époque biblique, donc
le veau d'or, l'idolâtrie,
etc., toute une série de péchés, des péchés qui sont mentionnés aussi dans la Bible. Il y a rien, le Coran n'invente pas ces péchés, ils sont explicitement mentionnés dans le Coran, dans la Bible, et à ce moment-là, et par ces faits même, ils perdent l'élection. Et c'est une démarche que le Coran fait pour nous préparer qu'il y aura maintenant un nouvel remplacement. Les Arabes vont être eux-mêmes le peuple élu. Donc il y a un autre verset qui parle de l'élection des Arabes ou de la communauté musulmane, un verset très connu, c'est dans la sourate 3, verset 110, qui dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas » Vous, c'est-à-dire vous les Arabes, la communauté nouvelle musulmane, vous êtes la meilleure de peuple qui a été mise devant l'humanité. Donc il y a ici la notion de remplacement de l'alliance. Et puis pourquoi c'est fait? Parce que dès qu'on a commis le péché, dès qu'on n'obéit pas à l'alliance avec Dieu, dès qu'on ne la respecte pas, on risque de perdre. Et ce qui est intéressant, ce qui est frappant, c'est que les commentateurs du Coran disent, alors nous ne pensez pas que vous êtes protégés, vous les musulmans, ça peut vous arriver également. Vous pouvez perdre ce statut d'être élu si vous n'obéissez pas et à l'alliance que Dieu a fait avec vous.
Ça pourrait être un argument pour les islamistes qui commettent des attentats.
Oui, peut-être, oui. Parce qu'il y a une logique d'une élection remplacée. Mais j'aurais dit plus que ça, je dirais plus que ça, que même dans la polémique interne de l'islam, je traite ça dans le livre, dans le dernier chapitre, que dans le chiisme, il y a cette notion que les vrais choisis, les vrais élus, c'est pas tout l'islam, c'est cette minorité de chiites. Donc vous voyez que même à l'intérieur de l'islam, il y a ceux qui disent voilà, cette notion, elle n'est pas globale, elle n'est pas adressée à tous les musulmans, elle est adressée à cette minorité qui a cette conscience qu'elle est la préférée, elle est l'élue, etc.
Religion du monde, Geneviève Delru.
On poursuit avec vous, Meir Bar Asher, sur ce, est-ce que le Coran est ou non antisémite? On voit effectivement toute l'ambivalence, la complexité du Coran dans ce domaine, puisqu'il y a des moments où, au contraire, le Coran semble tout à fait plutôt favorable aux Juifs, après beaucoup moins favorable. Bon, ça, c'est selon les époques, selon les batailles, j'allais presque dire, selon le contexte. Mais vous soulignez aussi que parmi les reproches qui sont faits aux Juifs dans le Coran, et on en trouve pas mal, il y a celui de « vous avez tué les prophètes ». Hein? Mais là, on voit qu'il y a très nettement l'influence chrétienne et le reproche chrétien qui apparaît.
Tout à fait, oui. On voit clairement que, je peux dire même plus que ça, que presque tous les arguments anti-juifs ou toutes les accusations qui sont adressées dans le Coran contre les juifs sont d'origine non-juive. C'est-à-dire ceux qui sont d'origine chrétienne, à vrai dire, et, ou bien païenne. On voit très clairement que le Coran, ce qu'il fait, c'est de recyclage des arguments qui ont été, dans l'Antiquité, adressés vers les Juifs, soit par les païens, soit par les chrétiens, soit des polémiques internes, par exemple les Samaritains contre les Juifs, soit les proto-caraïtes. Donc, tous ces arguments qui sont trouvables dans le Coran, rien n'est inventé. Le Coran, par exemple, cette accusation que les Juifs tuent leurs prophètes, elle se trouve dans les évangiles.
Oui, le peuple déicide, voilà. Oui. Le peuple qui a tué Jésus, c'est
oui,
ça
oui, pour,
C'est ça, l'accusation qui va avoir des répercussions catastrophiques.
Oui, tout à fait. Et puis, en plus, je peux ajouter à ça, même cette idée que les commandements ont été donnés, ont été accordés aux Juifs comme une punition, c'est pas par élection que Dieu leur a donné ces 613 commandements qui rendent la vie très chargée.
Un peu compliqué,
tout à fait. Il a fait ça parce que, puisqu'il refusait d'accepter le christianisme, c'est Jésus, donc ils étaient, puisqu'il était, il ne savait pas comment respecter l'alliance avec Dieu, donc Dieu a opté pour les punir, et c'est une idée qui se trouve chez les pères de l'Église, on la trouve répandue dans l'Antiquité, et puis on la trouve aussi dans le Coran. Et pareil pour l'idée de falsification des Écritures, c'est une idée qui était adressée vers les Juifs par des païens, par des chrétiens, par des samaritains, c'est pas quelque chose de nouvel.
Vous voulez dire donc, quand le Coran dit en clair, les Juifs ont falsifié et les chrétiens ont falsifié les Écritures, c'est une idée ancienne qui est reprise?
Tout à fait. Cette idée de falsification, elle est très présente dans le Coran. Elle est dite plus qu'une fois. Min al-ladina hadu yuharrifun al-kalima an mawadi'i. Parmi ceux qui sont devenus juifs, il y a ceux qui, pas tous les juifs, attention dans le Coran, pas tous les juifs, mais il y a parmi eux ceux qui changent les paroles de Dieu de ce qu'il était à l'origine. Donc ça, c'est l'idée de falsification qui est répétitive dans le Coran. Cette idée même n'est pas inventée par les musulmans, ça a été adressé déjà avant l'islam par les chrétiens, par les païens, par les samaritains. C'est une idée très répandue dans l'Antiquité, l'islam la recycle.
Alors, on peut dire que les règles, notamment les règles alimentaires, sont extrêmement proches.
Oui, et non seulement les règles alimentaires, mais les règles en général, les lois, l'aspect qu'on peut définir par le terme l'aspect halakhique, l'aspect de la halakha, ou en arabe de la charia, c'est-à-dire l'aspect légal, jurisprudence de l'islam, et dans le Coran et dans l'époque encore post-coranique, est très très marqué d'une influence juive. Et j'aurais dit, les deux religions se définissent par être des religions halakhiques, des religions de la loi. Donc, déjà, dans cette idée même de l'importance de la loi, il y a une similitude énorme entre les deux religions, mais en plus de ça, quand on entre dans les détails, quand on regarde les lois d'alimentation, les lois alimentaires, quand on regarde les lois de prière, quand on voit les lois de jeûne, les lois de pureté et impureté, tous ces aspects-là, et on peut montrer avec des détails, comme j'ai essayé de faire, de montrer dans quelques cas dans mon livre, étaient très influencés par les sources juives, mais en même temps, comme par tout autre sujet que j'ai traité dans le livre, en même temps, à côté de cette influence, il y a aussi un éloignement. Ça commence par une approche de proximité, d'aller vers le judaïsme, d'être influencé par le judaïsme, d'intégrer des éléments juifs dans la formulation de la halakha.
Et s'autonomiser ensuite.
Oui, tout à fait. Et puis plus tard, on s'éloigne, on fait un recul de ces sources et on les modifie de manière de les différencier des parallèles juifs.
Par exemple, vous pensez au choix par exemple, du vendredi, alors que les juifs, c'est le samedi, le Shabbat, c'est ça? C'est un premier exemple. Que le jeûne qui était très très pratiqué dans la péninsule arabique, même dans le monde païen anti-islamique, enfin même dans le monde anti-islamique, eh bien, le monde musulman va choisir essentiellement le mois du ramadan pour le jeûne. C'est à cela que vous pensez?
Oui, mais pour le vendredi, c'est curieux parce que dans ce cas-là, quelques chercheurs pensent que le fait que l'islam a opté pour vendredi, c'est pas pour faire éloigner les juifs, mais pour les attirer vers l'islam. C'est-à-dire, afin, d'une telle manière, ils ont la possibilité de se joindre à la prière musulmane et au rythme musulman sans renoncer le judaïsme. Donc, il y a une approche positive. Mais dans d'autres cas, par exemple, je vous donnerai un exemple qui est très très connu. Et nous savons que la direction de prière, là où on se dirige dans la prière, joue un rôle très important dans le judaïsme et dans l'islam. Et puis, nous savons très bien qu'au début, lorsqu'il y avait une approche beaucoup plus pro-juive, alors la direction était vers Jérusalem. C'est pour ça que Jérusalem est nommée parmi autre appellation de cette ville, elle est nommée en arabe Oulal Qiblatayn, qui veut dire la première parmi les deux directions. Donc avant que ce soit la Mecque, c'était Jérusalem. Et puis, lorsqu'il y avait la grande déception de Mohammed de la part de judaïsme, et lorsque, après l'Égypte, après tous ces essais de faire approcher les juifs vers le judaïsme, n'a pas eu beaucoup de succès, c'est comme ça que les commentateurs musulmans comprennent les choses, ils commencent à une étape de recul. Et à ce moment-là, on change la Qibla, la direction de prière, qui est, comme nous le savons très bien, à la Mecque. Et c'est-à-dire, ce qui a commencé par proximité vers le judaïsme, approché au judaïsme, se finit par éloignement du judaïsme. On peut voir cette démarche dans beaucoup d'autres cas.
Alors, la question pour aujourd'hui, Meir Baracher, la question pour aujourd'hui, montrer les similitudes, montrer aussi à quel point il faut contextualiser que quand certains s'emparent du Coran pour effectivement commettre des actes agressifs, voire extrêmement violents à l'égard des Juifs, combien ils n'arrivent pas à contextualiser ce texte. Que faire avec toutes ces découvertes, hein, ces similitudes que vous mettez en exergue, que bien d'autres avant vous ont mis en exergue aussi, mais là maintenant on voit que ça atteint un plus grand public. Quelles conséquences? Est-ce que ça peut ouvrir une voie, j'allais dire, de pacification?
Vous savez, moi je ne sais pas, je ne suis pas un homme politique, et je ne suis pas un propagandiste. Et ce que j'essaie de faire en tant qu'universitaire, c'est d'essayer à enseigner les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, souvent, le grand problème, et je l'entends tout le temps en médias ou dans les entretiens avec des amis, avec des collègues, partout, ici et ailleurs, on parle sans connaître les choses. On fait des généralisations sans lire un verset du Coran. Ou quelques-uns lisent des versets répétitifs qu'ils trouvent dans Le Monde et dans les journaux, les autres journaux, sans avoir le contexte. Et ce que je fais, j'essaie de présenter les choses telles que je les vois par les textes et voir que les choses ne sont pas aussi simples que les gens pensent. Et ce qui est juste à faire, c'est de mettre les choses dans leur contexte. C'est ça l'effort que je fais. Je pense, en mettant le texte, les expliquant le contexte, j'essaie de rendre service à ceux qui veulent écouter, à ceux qui veulent écouter, parce que la grande majorité de l'humanité ne veulent pas écouter. Vous dites telle chose ou une autre, ça change rien, parce que les gens viennent avec leurs préjugés, et puis vous écrivez un livre, vous n'écrivez pas, ça change pas aucune chose. Mais pour cette minorité qui est prête à absorber les données et les comprendre avec l'aide de quelqu'un qui les connaît, c'est par apprentissage de plusieurs années, par enseignement de plusieurs années, c'est mon but.
Voilà, vous n'avez pas d'agenda précis, si ce n'est que vous faites votre travail d'historien, de scientifique, et puis tant mieux si ça sert, c'est ça?
Oui, j'espère que, exactement, je fais mon travail d'historien, de philologue, avec l'espoir que les gens le lisent avec sincérité, afin que une bonne connaissance peut servir comme un pont vers l'autrui.
Meir Baracher, son livre « Les Juifs dans le Coran » est publié chez Albin Michel. Mahomet l'Européen, histoire des représentations du prophète en Occident, publié chez Albin Michel, est le titre du livre de John Tolan, professeur d'histoire à l'Université de Nantes. John Tolan, bonjour.
Bonjour.
Alors, quand on évoque les représentations du prophète, viennent à l'esprit les représentations récentes, j'allais dire, l'affaire des caricatures en 2005, dans le quotidien danois Jyllands Posten, qui avait soulevé, on s'en souvient, des manifestations très violentes dans des pays musulmans, et puis les caricatures, bien sûr, de Charlie Hebdo, et l'attentat en janvier 2015, qui devait décimer une partie de la rédaction du journal satirique. Votre travail, John Tolan, sur les représentations du prophète en Occident, du Moyen-Âge à nos jours, élargit le propos. Il dessine une grande fresque méconnue du regard des Européens sur le prophète de l'islam qui inspire à la fois la peur, la crainte, mais on verra aussi une certaine fascination. Alors, des regards sur le prophète qui correspondent aussi aux enjeux de l'époque, hein, que ce soit les croisades, les guerres de religion, l'extension de l'Empire ottoman, etc. À qui avez-vous pensé, John Tolan, en écrivant ce livre? Il est destiné à qui?
Il est destiné d'abord aux lecteurs français et à tous ceux. J'ai écrit ce livre, j'ai commencé en 2015, effectivement, avec les événements que vous venez d'évoquer en tête. Et à la fois, je voulais montrer que le prophète de l'islam est une figure importante de notre histoire commune, de notre histoire culturelle. C'est pour ça que je l'appelle Mahomet l'Européen. C'est pas Mohammed le prophète de l'islam, mais plutôt l'image, ou comme vous dites, les images que les Européens ont construites autour de cette figure. Souvent, effectivement, caricaturale, souvent polémique, mais pas toujours. Et donc, pour revenir au public, je pense à ceux qui pourraient penser que l'islam est arrivé récemment en Europe avec des histoires d'immigration, de montrer au contraire que l'islam est présent depuis le Moyen-Âge, à la fois présence physique des musulmans, bien entendu, mais aussi présence dans notre culture. On parle du prophète, on parle du Coran, on parle de l'islam, soit pour en faire un repoussoir, soit au contraire pour l'engager avec lui et pour l'interroger sur notre propre culture. Donc aussi, une partie du public de ce livre, ce sont des musulmans d'Europe et de France, pour montrer à la fois la richesse et la diversité des représentations européennes de prophètes qui n'ont pas toujours été négatives.
Alors, John Tolan, d'abord, je précise que vous êtes américain, mais un américain passionné par l'histoire de l'islam en France, en Europe.
Oui, ça fait une vingtaine d'années que je suis en France, que je suis à l'Université de Nantes.
Alors, ce livre, votre livre, s'ouvre sur une rencontre inattendue, j'allais dire, entre Napoléon Bonaparte, c'est un 2 octobre 1808, et Goethe, hein, donc le poète allemand, qui a traduit la pièce de Voltaire, Le fanatisme ou Mahomet, le prophète, donc un portrait, on l'a compris, à charge, sur lequel donc le philosophe des Lumières reviendra. Hein. Plus tard, il changera effectivement sa position. Et Napoléon est très mécontent. Il lui dit, voilà, cette pièce ne correspond pas du tout aux conquérants, aux stratèges, au génie militaire, au réformateur qui a changé le cours de l'histoire.
Tout à fait. Et pour Napoléon, le prophète était une sorte de modèle, une inspiration. Déjà, quand il allait en Égypte, Napoléon a amené avec lui dans ses bagages le Coran, dans la traduction récente de Claude-Étienne de Savary. Pour Savary, donc Savary a été en Égypte, il a écrit des lettres d'Égypte, qui étaient une sorte de best-seller en France de la deuxième moitié du 18e siècle. Et c'est en Égypte qu'il a traduit le Coran, et il voulait une traduction française qui soit fidèle à la musique de la langue arabe et la beauté d'expression poétique du Coran. Et donc, il est préfacé, ce Coran, d'une introduction, surtout une vie de Mohammed, de Mahomet, qu'il présente comme une grande figure historique, un grand homme qui a changé le cours de l'histoire.
Mais alors donc, Napoléon, là, admire, c'est le stratège, hein, c'est le génie militaire. Oui. Ça n'est pas tant le chef religieux.
Non, pour lui, la religion, c'est une manière pour Mahomet d'inspirer les masses, de manipuler les masses en quelque sorte. Ça, c'est une idée qu'on trouve chez les polémistes européens depuis le Moyen-Âge. Mais pour Napoléon, c'est devenu quelque chose de positif. Il a su inspirer son peuple, il a su faire des grandes choses en inspirant le peuple, en amenant le peuple avec lui.
Alors, commençons, John Tolan, par le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on appelle un musulman un sarrasin.
C'est ça. Donc, ce sarrasin, on imagine souvent comme un païen, idolâtre. Et on imagine que Mahomet soit l'un des dieux, le dieu principal de ces sarrasins. Tout ça, on trouve dans des chansons de geste, comme la chanson de Roland. On les trouve dans des chroniques latines à propos des croisades. On imagine même dans plusieurs chroniques que lorsque les croisés arrivent à Jérusalem et prennent la ville le 15 juillet 1099, ils auraient retrouvé dans le dôme de Rocher une statue en or du prophète Mahomet. Évidemment, chose impossible, mais ça montre bien la place de cette religion supposée idolâtre dans l'imaginaire chrétien de l'époque.
Oui, ce qui effectivement est tout à fait l'opposé de la, je dirais, du dogme islamique. L'idolâtrie est absolument à l'opposé.
Oui. Et donc, il y a certains chrétiens européens, déjà au deuxième siècle, qui s'en rendent compte et qui disent non, non, il faut pas dire que Mahomet est le dieu des Sarrasins, mais il est plutôt le prophète. Il considère comme un grand homme, mais donc ces autres auteurs chrétiens vont faire de lui non pas un dieu, mais un faux prophète et un hérésiarque, c'est-à-dire le fondateur d'une version hérétique, déviante de la vraie religion, qui pourrait évidemment le christianisme.
Que sait-on au Moyen-Âge, si ce n'est bien sûr physiquement avec les conquêtes, mais que sait-on au Moyen-Âge du prophète, que sait-on au Moyen-Âge du Coran?
Alors, ça dépend où et quand. Évidemment, beaucoup d'informations viennent en Europe latine du biais de l'Espagne où évidemment les chrétiens connaissaient bien l'islam.
Parce depuis qu'il y avait, le 8e siècle.
Depuis l'arrivée des musulmans en Espagne au 8e siècle. Certaines autres informations venaient donc de l'Orient dans le contexte des croisades. Donc, il y avait une grande variété. Donc, il y a ceux qui imaginaient que Mahomet était le dieu des musulmans, des sarrasins. Il y a ceux, au contraire, qui étudient le Coran. Il y a Pierre, le vénérable abbé de Cluny, qui va en Espagne dans les années 1140, qui embauche un traducteur anglais, Robert de Ketton, pour traduire le Coran en latin, et pour mieux combattre cet ennemi, cet hérétique.
Mais avec des outils,
avec des outils scientifiques.
Et ça va donner quoi?
ça va donner donc cette traduction du Coran, oui, du 1142, qui est recopiée ensuite dans plusieurs manuscrits tout au long du Moyen Âge, qui est retrouvée ensuite 4 siècles plus tard par un certain Theodor Bibliander, qui était un érudit protestant, qui le fait publier cette traduction latine à Bâle, avec une préface de Martin Luther.
Alors, Martin Luther, précisément, on apprend beaucoup de choses, hein, dans votre livre, John Dolan. Martin Luther a, vis-à-vis du prophète, finalement, des mots moins sévères, beaucoup moins sévères que, vis-à-vis du pape, remarquez, c'est normal, mais quand même, il est beaucoup plus sévère pour le pape que pour le prophète, non?
Oui, tout à fait. Et on voit avec, donc, au XVIe siècle, évidemment, dans un contexte de peur des Ottomans, parce que les Ottomans sont en train de conquérir une bonne partie de l'Europe, mais aussi, évidemment, la réforme et la guerre de religion. Donc, pour Luther, il dit effectivement que le diable du pape est plus grand que le diable du turc. Donc, c'est-à-dire, et il y a d'autres protestants qui vont le dire, c'est-à-dire que finalement, on compare l'islam au catholicisme, on dit dire que vous, les catholiques, vous êtes encore pire que les musulmans. C'est pas tellement pour valoriser l'islam, ou c'est pas parce que on s'intéresse à l'islam, mais c'est utile d'utiliser le prophète ou l'islam pour critiquer les catholiques. Évidemment, les catholiques vont faire la même chose, qui vont dire que comparer à des auteurs catholiques comme Guillaume Postel, professeur d'arabe au Collège de France au XVIe siècle, qui compare les évangélistes, comme il appelle les protestants, avec les musulmans, et dit que les deux sont similaires, les deux rejettent le culte des saints, les deux essaient d'interdire l'utilisation des images, par exemple. Donc, il y a plusieurs niveaux de comparaison. Il dit, bon, finalement, les deux, de son point de vue et du point de vue d'autres auteurs catholiques, sont similaires, les musulmans et les protestants. Et donc, là aussi, pour les auteurs catholiques, cette comparaison est intéressante parce que il permet de rejeter les arguments des protestants.
Oui, j'ai relevé John Dolan une phrase intéressante sur les Turcs, hein, parce que pour Luther, les musulmans, ils les appellent les Turcs. Bon, faut dire qu'à l'époque, Soliman le Magnifique, effectivement, fait de grandes progressions territoriales. Eh bien, pour Luther, le Turc est le fouet et la baguette de Dieu.
Tout à fait. Dans un premier temps, Luther estimait que les conquêtes des Ottomans étaient la punition pour les péchés des chrétiens et surtout la punition contre les catholiques, parce que les catholiques n'acceptaient pas la réforme, les catholiques persécutaient les protestants et donc les invasions ottomane était la punition.
Et John Dolan, vous me corrigerez si je me trompe. Pour Luther, semble-t-il, l'islam est un monothéisme purifié.
Oui et non. Pour Luther, c'est évidemment le protestantisme qui est le christianisme purifié. Il a une vision assez négative du prophète. Quand il écrit une préface à la traduction latine du Coran, il défend cette publication parce qu'il dit « La meilleure manière de combattre le Turc, c'est de faire connaître les mensonges de Mahomet. »
Ah, effectivement. Donc, c'est pas si simple que ça.
Non.
Alors, venons-en à Voltaire, John Dolan. Il y a deux Voltaire vis-à-vis de Mahomet. Il y a le Voltaire qui écrit ce traité à charge. Et puis, plus tard, il va revenir sur sa position, j'allais dire, anti-Mahomet.
Oui, tout à fait. Parce que dans ce première œuvre, Mahomet, le fanatisme, il va présenter le prophète comme figure même du fanatisme pour mieux critiquer le vrai fanatisme pour lui, celui de l'Église catholique. Donc c'est une œuvre de charge, mais moins finalement contre le prophète que contre l'Église catholique. Mais ensuite, il va, grâce en partie à ses lectures, notamment à la traduction anglaise du Coran par George Sale, publiée en 1734, il va changer d'idée. Le but est toujours le même, écraser l'infâme, critiquer le fanatisme catholique, mais il se dit que finalement, c'est plus intéressant et plus utile d'utiliser Mahomet comme un héros anticlérical. Donc, et Voltaire n'est ni le premier ni le seul au XVIIIe siècle à présenter le prophète ainsi, et devient l'ennemi du clerc, donc celui qui a aboli les privilèges du clergé, et essayer de débarrasser le christianisme de ses superstitions, de ses pratiques, les reliques, les saints, etc.
On va aller en Angleterre avec vous, John Tolan. Alors là encore, en Angleterre, il y a une récupération, en quelque sorte, au XVIIe siècle, de la figure du prophète Mahomet.
Oui, récupération
politique
de côté d'autre. Alors, on est dans le contexte de la guerre civile anglaise.
Le roi a été
voilà, en 1649, le roi Charles Ier est décapité. Et quelques mois après, il y a la première traduction anglaise du Coran. Et le traducteur qui était clairement royaliste, mais qui ne peut pas s'afficher clairement en tant que tel, fait une petite biographie de Mahomet, comme souvent dans l'introduction au Coran, et il présente Mahomet comme un rebelle au pouvoir légitime, un républicain qui a voulu remuer les masses en libérant des esclaves. Donc c'est un ramassis d'esclaves et de plèbes qui seraient formés autour de Mahomet, qui aurait permis Mahomet de se lancer dans la conquête du monde. Alors, si on lit ça en 1649, c'est très clair que pour lui, Mahomet et Cromwell, ou plutôt Cromwell qui vient de faire décapiter le roi, serait un nouveau Mahomet. Et quelques décennies plus tard, un des partisans de la République, donc un certain Henry Stubb, va écrire un ouvrage sur Mahomet où il va reconnaître cette identification entre Mahomet et la République, mais au contraire, il va faire de Mahomet un héros républicain, quelqu'un là où notamment ces républicains critiquaient non seulement la royauté, mais l'église, la place privilégiée de l'église anglicane. Et là aussi, donc, lui, ça, un siècle avant Voltaire, ou quasiment un siècle avant Voltaire, va faire cette même démarche, faire de prophète de l'islam un grand héros anticlérical. Donc, un modèle que les rois européens devraient suivre.
Écoutez Religion du Monde, notre invité est l'historien John Tolan pour son livre Mahomet l'Européen, histoire des représentations du prophète en Occident, publié chez Albin Michel. Alors John Tolan, on va aller tout doucement vers le 19e siècle et vers les romantiques, notamment Lamartine.
Oui.
Lamartine qui est fasciné, enfin en tous les cas, qui voit dans le visage du prophète Mahomet, dans sa vie, une sorte de héros romantique, faut le dire.
Oui, tout à fait, sans accepter la mission divine de Mahomet, donc sans le voir comme un véritable prophète inspiré par Dieu, il a une vision psychologisante du prophète, c'est-à-dire qu'il pense qu'il était sincère, il était inspiré, il était sincère et qu'il croyait que ses visions venaient de Dieu. Lamartine va reprendre une vieille légende comme quoi Mahomet aurait été épileptique et il va dire que cette épilepsie, en lieu d'être quelque chose de négatif, c'était quelque chose de positif parce que les grands esprits, comme Jules César, souffraient de l'épilepsie. Et donc, c'est dans ces crises d'épilepsie qu'ils auraient des visions qu'ils auraient prises pour des révélations venant de Dieu et ensuite qu'ils auraient traduit par écrit dans ces révélations dans le Coran.
Oui, donc Lamartine, qui avait écrit un livre qui s'intitulait « Les grands hommes de l'Orient » et parmi lesquels donc il y avait le prophète Mahomet. Goethe, Alors Goethe, on en parlait au début de l'émission, de Goethe qui a une conversation donc un jour avec Napoléon, Napoléon qui n'est pas content parce que la traduction qu'il a faite en allemand donc du livre de Voltaire, du premier livre de Voltaire sur le prophète Mahomet ne correspond pas selon Napoléon à la réalité du prophète, à la vie du prophète. Alors Goethe, pourquoi Goethe s'est-il passionné pour le prophète Mahomet?
Alors, Goethe, c'est quelqu'un comme d'autres auteurs romantiques qui cherche donc une voie spirituelle nouvelle. Il n'est pas tout à fait content avec le protestantisme qui l'entoure. Il est fasciné par le Coran. Il se met à étudier l'arabe parce qu'il estime qu'il n'y a pas de bonne traduction de Coran. Il a comme ambition de traduire le Coran et n'apprend pas. Jamais assez bien l'arabe pour le faire, même s'il traduit des petits bouts. Et il voit en Mahomet une espèce de figure du prophète et qui le mène à s'interroger sur la différence entre prophète et poète. Et à un moment, il dit, si Mahomet était né à notre époque, il aurait été poète. Et si moi j'étais né à notre époque, j'aurais été peut-être prophète. Donc les deux se ressemblent. Il voit dans le Coran le génie poétique de Mahomet et aussi cette inspiration spirituelle prophétique.
Alors on terminera avec les Juifs du 19e siècle, avec deux Juifs du 19e siècle qui voulaient manifestement, qui étaient des réformateurs, qui voulaient que le judaïsme se réforme et qui vont également s'appuyer, ce sont des Juifs d'Europe centrale, qui vont s'appuyer sur la figure du prophète Mahomet.
Tout à fait, il y a un certain nombre d'orientalistes juifs de langue germanique qui...
Alors leur nom, il y a Geiger, c'est ça?
Oui. Il y a Abraham Geiger qui étudie le Coran, il compare le Coran à différents textes juifs, donc des textes rabbiniques, il montre les similarités entre les deux. Et pour lui, Mahomet serait un réformateur qui a amené les Arabes du paganisme à un monothéisme qui avait beaucoup en commun avec le judaïsme antique. Un autre auteur, Ignaz Goldsier, juif hongrois, voyait vraiment l'islam comme un modèle pour la réforme nécessaire pour lui du judaïsme au XIXe siècle. Et pour ces auteurs et pour d'autres auteurs juifs, il contrastait la politique musulmane envers le judaïsme, politique de tolérance pour eux qui a permis l'épanouissement du judaïsme en monde musulman, à la persécution, l'antisémitisme dont il souffrait en Europe. Donc, d'une certaine manière, là aussi, on instrumentalise l'histoire de l'islam pour montrer aux chrétiens d'Europe que si nous, les juifs, on n'arrive pas à nous intégrer dans votre société, c'est pas notre faute, c'est la vôtre. Parce que regardez en l'islam, avec une religion tolérante, ce qu'on a pu faire.
Oui, enfin, avec un statut de dimitude quand même.
Oui, oui. Mais ça, oui, je parle.
Ça suppose, oui, oui.
Ça, je parle de l'image qu'on faisait au 19e siècle. Ce mythe de l'Andalousie tolérante était vraiment créé par des juifs qui courent encore de nos jours. C'est vraiment créé par des juifs au 19e siècle en Europe centrale.
Oui, pour lancer un message, effectivement, un message au monde chrétien.
Tout à fait.
Qui les ghettoisait.
Tout à fait.
Je vous remercie, John Tolan. Je rappelle donc le titre de votre livre, Mahomet l'Européen, histoire des représentations du prophète en Occident, et c'est publié chez Albin Michel. Merci.
Merci à vous.
Et c'est la fin de notre émission que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de RFI. Religion du Monde était présentée par Geneviève Delrue et réalisée par Didier Bleu. On se retrouve dimanche prochain. Bonne semaine à tous.